Bonjour. Le message aujourd'hui que je vais m'entretenir avec vous, c'est pour vous expliquer une pensée de la parole de Dieu, surtout pour la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance qu'on a à travers du sang de Jésus, la nouvelle alliance qu'on a à travers de l'œuvre que Jésus a accomplie voilà 2000 ans, afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Mais suite à ce qu'on réalise, qu'on réalise l'œuvre que Jésus a faite, on réalise que nous sommes des pécheurs, on réalise qu'on a besoin de Jésus pour être pardonné de nos péchés, puis on réalise notre état qu'on est perdu sans Dieu, puis qu'on ne peut pas gagner notre ciel par nous-mêmes. Et lorsqu'on réalise que Jésus est le seul chemin pour être sauvé, puis que je l'accepte comme mon sauveur personnel, je l'accepte comme mon Seigneur, je me convertis, je m'engage à le suivre, à le servir. Le Seigneur me pardonne de tous mes péchés. À partir du moment où ce qu'on donne notre vie au Seigneur, qu'on l'accepte, qu'on le confesse, qu'on croit qu'il est mort pour nous pardonner, puis en plus de nous donner le Saint-Esprit, nous lui demandons le Saint-Esprit, une nouvelle vie commence, puis là nous marchons avec le Saint-Esprit sur cette terre. Pardonné de tous nos péchés, puis nous avons l'assurance de la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce qui arrive suite après cet engagement qu'on fait envers le Seigneur? Le sujet du message, c'est les chrétiens puis la confession de leurs péchés. Est-il nécessaire de confesser nos péchés quand on s'est converti au Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes déjà couverts par le sang de Jésus. Nous sommes déjà recouverts du sang de Jésus qui nous pardonne, qui nous purifie. On a fait la paix avec Dieu. La nouvelle vie commence. Mais à chaque jour, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous commettons encore des désobéissances, nous nous égarons, nous écoutons pas sa voix tout le temps, puis il arrive que nous retombons dans le péché, puis assez régulièrement. Les chrétiens font face à cette marche, puis il n'y a aucun chrétien sur la terre qui est sans péché. La Bible a dit, si on dit qu'on est sans péché, on est menteur, puis la vérité n'est point en nous. Puis nous savons que chaque personne qui vient à Jésus en se repentant est pardonnée. Cependant, qu'en est-il de nos péchés futurs? Tous les péchés qu'on a faits après qu'on nous sommes convertis, est-il obligatoire de les confesser? Parce que j'ai entendu dans certains partages de frères et sœurs, puis dans certains sujets un petit peu épineux, qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais une fois que tu as accepté Jésus, tu es pardonné de tous tes péchés passés, présents et à venir, puis tu n'as plus besoin de confesser quoi que ce soit, ça a déjà tout été payé, tu n'as plus besoin d'en parler, tu peux continuer à en faire même des péchés, puis c'est pas grave. » T'es pardonné par la foi en Jésus. Pour comprendre ce sujet-là qui est un petit peu complexe, mais en même temps c'est simple, on va regarder quelques passages de la parole de Dieu pour nous aider à nous mettre dans ce contexte. Jésus a enseigné, dans Matthieu 6:12, qu'on peut aller voir ce passage-là, Jésus a enseigné à prier à ses disciples. Il leur a montré comment prier, puis il leur a donné un exemple de prière. Puis dans cette prière-là, c'est comme si c'était une prière de chaque jour, un exemple de prière. Je dis pas que c'est une prière qu'il faut répéter mot à mot comme appris par cœur, mais c'est une prière nous montrant les points particuliers dans lesquels on doit s'arrêter, comme de s'adresser à Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On s'arrête à vraiment louer Dieu, puis à réclamer que le nom de Dieu soit élevé, que son règne vienne, que sa volonté se fasse. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, on voit que c'est une prière chaque jour qu'on demande à Dieu de nous donner ce qui est nécessaire pour manger. Puis là, le point où qu'on arrive dans ce que je veux vous apporter aujourd'hui, il a mentionné de demander pardon à Dieu pour nos futures offenses. Il dit dans Matthieu 6:12, « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Moi, ce que je comprends dans ce passage-là, c'est que Dieu nous dit à travers Jésus qu'on peut s'approcher de lui, que nous pouvons obtenir le pardon pour chacune des offenses qu'on va faire après qu'on soit engagé à le suivre et à le servir. Jésus est en train de parler à ses disciples, puis il lui a dit, comme un exemple de prière, qu'on pouvait demander à Dieu le Père, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous le pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le point que je retire aussi de ce passage-là, c'est que Jésus nous invite à nous approcher de Dieu pour demander pardon pour nos offenses. Il n'a pas dit, oh, les péchés ont déjà tout été pardonnés, je suis déjà tout pardonné en Jésus que j'ai plus besoin de demander pardon à Dieu. Non, Jésus nous dit que, comme dans une prière quotidienne qu'on doit faire, autant qu'on doit remercier Dieu pour la nourriture, qu'on doit lui en demander du pain au quotidien, mais il nous demande aussi de s'approcher de Dieu puis de demander pardon pour nos offenses. Dans ce passage-là, on voit que Jésus enseigne à ses disciples qu'on doit s'approcher de Dieu le Père et demander pardon de nos offenses, comme aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. On voit que nous aussi, en tant que chrétiens, on est capable de pardonner aux autres, fait qu'on demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, mes offenses, comme aussi je suis capable de pardonner aux autres. Mais Jésus, dans ce passage-là, il va encore plus loin dans la prière du Notre Père. Il a aussi enseigné à ses disciples que le pardon de Dieu n'est pas toujours automatique. Il n'a pas dit, chaque fois que vous allez pécher, vous êtes pardonné automatiquement. Non, il faut quand même s'approcher de Dieu et demander pardon à Dieu pour nos offenses. Là, il dit que le pardon, il n'est pas automatique. Les chrétiens doivent demander pardon afin de garder leur communion avec Dieu puis de pas attrister le Saint-Esprit. Il est clair qu'à chaque fois que nous péchons, une fois que nous sommes chrétiens, nous qui sommes en communion avec l'Esprit-Saint, chaque fois que nous péchons, nous désobéissons à Dieu, cela attriste le Saint-Esprit, puis ça nuit à notre communion, ça nuit à notre contact que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, chaque chrétien est invité à demander pardon à Dieu afin de conserver cette communion avec l'Esprit-Saint. Mais dans Matthieu 6, 14, ça nous dit, comme une conclusion de la prière du Notre Père, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Oh, dans cet enseignement-là, Jésus démontre l'obligation des disciples d'apprendre à pardonner à leurs semblables s'ils veulent eux-mêmes recevoir le pardon de Dieu. Nous voyons que le pardon n'est pas automatique. J'ai été pardonné de mes péchés quand je me suis converti, mais j'ai été pardonné pour retrouver une communion avec Dieu, pour que l'Esprit de Dieu descende en moi puis que mon corps devienne son temple. Là, je marche en communion avec lui. Mais après ça, quand que je marche avec le Seigneur, quand je désobéis, quand je pêche, quand je fais des choses que Dieu n'aime pas, je l'attriste, puis afin de garder ma communion avec lui, je dois lui demander pardon. Mais dans cette parole-là que Jésus enseigne à ses disciples, il lui démontre l'obligation pour tout chrétien de pardonner aux autres leur offense. Parce que Jésus dit, vous allez être pardonné dans la même mesure que vous allez pardonner aux autres. Autant que nous voulons retrouver le contact avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit dans nos vies, autant que nous voulons marcher en contact avec, Dieu veut qu'on marche en contact et en communion avec ceux qui nous entourent. Il dit, à chaque fois, vous ne pardonnerez pas aux hommes leur offense. Là, on parle pas juste de s'accorder entre frères et sœurs dans notre famille, pas juste s'accorder entre frères et sœurs dans l'Église de Dieu, mais aussi avec tout le monde qui nous entoure autant que c'est possible. C'est pas de Dieu qu'un chrétien garde la rancune et du non-pardon envers les gens qui l'entourent. C'est un signe. Il est en train de démontrer que son cœur ne marche pas dans l'amour. Si tu veux vraiment démontrer à Dieu que tu veux marcher dans l'amour, tu vas chercher la réconciliation avec tous ceux qui t'entourent. Autant que ça dépend de toi. Si l'autre veut pas se réconcilier, mais là, c'est pas ton problème. Mais en autant que ça dépend de nous, nous devons chercher à nous réconcilier. Donc, se pardonner mutuellement entre nous. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu dit qu'il va nous pardonner dans la même mesure qu'on aura pardonné aux autres. Il dit, si vous pardonnez aux autres leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ça veut dire, nous voulons retrouver notre contact avec Dieu lorsque nous péchons. Il est important d'apprendre que le pardon n'est pas automatique. Pour garder notre communion avec Dieu, nous devons demander pardon à Dieu. et le faire dans le même élan que nous sommes capables de pardonner à ceux qui nous entourent. Puis il faut pas s'attendre à ce que Dieu passe par-dessus sa parole, puis qu'il dit « Ah, mais toi, Daniel, à toi, je vais te pardonner tous tes péchés, puis c'est pas grave si t'as pas pardonné aux autres. » Non, non. Dieu fait pas d'exception de personne, puis Dieu demande à ce qu'on soit réconcilié avec tout le monde. Il veut pas qu'on garde du non-pardon. Savez-vous aussi que chaque chrétien est appelé qu'il doit marcher dans la sanctification? C'est ce qu'on voit aussi dans Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tous, c'est en plein ce qu'on est en train de dire au niveau de la prière du Notre Père, de pardonner à tout le monde. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Savez-vous ce que ça veut dire, sanctification? Ça veut dire sainteté, sanctification, ça veut dire de se consacrer à Dieu et de se purifier. Plus que je vais vouloir me consacrer à Dieu, plus que je vais me défaire de ce qui m'entoure, qui provient du monde, ou qui provient de ma chair, ou qui provient du diable, je vais fuir ces choses, je vais chercher à me purifier, je vais chercher à devenir saint, je vais chercher à devenir consacré à Dieu. Puis l'effet de la consécration qu'on a envers Dieu, c'est ça qui est la sanctification de notre cœur et de notre vie. On cherche à se purifier, on cherche à se consacrer, à devenir saint dans notre cœur, dans nos pensées, puis dans toute notre vie, dans nos agissements, dans notre parole, dans nos gestes de tous les jours. C'est ça qui est la sanctification. Puis tous les chrétiens sont appelés à rechercher la paix avec tous, mais aussi à rechercher la sanctification, qu'on recherche à se consacrer, à se purifier. Sans cela, on verra pas le Seigneur dans notre vie. La marche dans la sanctification, c'est la consécration, la purification à chaque jour. Les chrétiens doivent se perfectionner, puis ils doivent enlever de leur vie ce qui déplaît à Dieu. Ça s'appelle la marche dans la lumière. Ça s'appelle demeurer dans la lumière ou marcher dans la lumière. Dans 1 Jean 1, le verset 6, on voit cette idée-là. C'est l'apôtre Jean qui nous enseigne. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire, tu dis que tu es en communion avec Dieu, mais dans tes œuvres, dans ta manière de vivre, tu marches dans le mensonge, tu marches dans le péché, dans les ténèbres. Tu pratiques pas la vérité. Si tu hais ton frère, tu hais les personnes qui t'entourent, tu as de la rancune, des chicanes, des querelles, puis tu as de la haine, puis tu... Ça, là, tu marches dans les ténèbres, puis la vérité n'est pas en toi. Si tu veux garder le contact avec Dieu le Père, si tu veux garder une communion parfaite avec Dieu le Père, tu n'as pas le droit de marcher dans les ténèbres. Si tu marches dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, puis là, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ce que ça nous dit au verset 7 de 1 Jean, au chapitre 1, le verset 7. En tant que chrétiens, nous devons marcher dans la lumière, comme lui, Dieu, est dans la lumière, puis là, on va demeurer en communion. C'est là que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si on dit qu'on n'a pas de péché, on se séduit nous-mêmes, puis la vérité n'est pas en nous. On peut pas dire, « Oh, moi, je suis un gars sans péché. » Automatiquement, en disant ça, la vérité n'est pas en toi. Si tu n'as pas la vérité, tu marches dans les ténèbres. C'est ce que ça dit au verset 6. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres, nous devons marcher dans la lumière pour être en communion avec Dieu le Père. Puis marcher dans la lumière, c'est de marcher loin du péché, c'est de se sanctifier. Puis là, le verset 9, c'est là qu'on comprend plus le sens de toute cette idée. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est en train de nous dire, tu dis que tu n'en as pas de péché, tu es un chrétien, tu te penses en communion, puis tu vis tout croche, puis tu vis dans le péché, puis tu as de la misère à t'accorder avec les gens qui t'entourent. Tu mens, tu marches dans les ténèbres, tu es aveugle, tu t'aperçois pas que tu es en train de faire des choses qui déplaient à Dieu. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière, dans le pardon, à rechercher la sanctification. Ça veut dire fuir le péché, combattre le péché. Si on dit qu'on n'en a pas, on se séduit. Mais le verset 9, il nous dit, si nous les confessons, là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Donc, il est en train de dire que tout chrétien a des péchés. Si un chrétien dit qu'ils n'ont pas de péché, ils sont menteurs. La Bible a dit tout le monde en a, puis le verset 9 a dit, ça nous dit de les confesser. Tous les chrétiens devraient être en train tous les jours de confesser leurs péchés à Dieu, parce que c'est en les confessant que là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Puis là, nous purifier de toute iniquité. Et quand on est déclaré pur de nos iniquités, on retrouve notre contact avec Dieu, puis là, nous marchons dans la lumière. Nous pratiquons la vérité. Si nous marchons dans les ténèbres, nous ne pratiquons pas la vérité, nous sommes séparés de lui, nos péchés nous aveuglent. Dieu veut qu'on avoue que nous sommes pécheurs en tant que chrétiens, que nous faisons encore des péchés, puis que nous devons les confesser afin qu'il nous les pardonne, puis afin qu'il nous purifie. Parce que la purification, quand on parlait tantôt de la sanctification qu'on doit rechercher, c'est une purification produit par Dieu. C'est Dieu qui va nous rendre pur. C'est pas parce que moi, je suis capable d'arrêter de pécher que je vais arrêter. Non, il faut que je le confesse à Dieu, mon état. Si je veux, mettons, j'ai un problème de colère, puis à tous les jours, je me mets en colère. Si je me dis, j'ai pas de péché, mais je suis dans les ténèbres, puis je vais continuer à être encore dans la colère demain, puis après-demain, ça va être pareil, puis à tous les jours, ça va être pareil, parce que je l'avoue pas. Mais si je confesse, c'est vrai que je me mets en colère. Puis là, on le dit à Dieu, Père, pardonne-moi d'être en colère. Je sais que ça t'offense, je sais que ça blesse ceux qui m'entourent. Je te demande pardon, puis je te demande de me pardonner, puis je te demande de me purifier. C'est là que le Saint-Esprit va agir dans ta vie, puis que là, tu vas être en communion, tu vas être dans la lumière, parce que tu confesses que tu es pécheur, puis tu demandes de l'aide à Dieu. C'est là qu'il va te pardonner. T'es pas pardonné automatiquement chaque fois que tu pèches. T'es pardonné quand tu confesses ta faute, puis que là, tu t'en détournes, puis tu demandes de l'aide à Dieu pour qu'il te purifie de toutes tes iniquités. Paul nous enseigne aussi, afin de garder ses enfants impénitents dans le droit chemin, Dieu se doit de les punir. Quand un chrétien s'endurcit, puis là il vit dans le péché, puis il fait du mal à tous ceux qui l'entourent, ça nous dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 30, « C'est pour cela que parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Si nous nous jugions nous-mêmes, on ne serait pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous voyons dans ce passage-là que ça s'adresse à des chrétiens qui sont nés de nouveau pourtant, des gens qui ont été pardonnés en venant à Jésus-Christ. Mais ils continuent à faire des péchés, puis là, ils ne jugent pas eux-mêmes, puis là, ils font du mal. Puis là, Dieu est obligé de ses ravis, il les frappe d'une maladie, d'infirmité, ou même il y en a qui sont morts. Ananias et Saphira sont tombés morts direct. Quand ils ont fait le péché, ils ont continué en mentant contre le Saint-Esprit devant l'apôtre Paul et les autres frères et sœurs qui étaient là à ce moment-là. Ça nous dit que Dieu a frappé Ananias, puis après ça, il a frappé Saphira, il les a tués. Un grand nombre sont morts, ça nous dit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, le verset 30 à 32. Ça dit, si les gens seraient jugés eux-mêmes, puis qu'ils auraient dit, nous avons péché, on n'a pas été correct, pardonne-nous Seigneur, puis pardonnez-nous frères et sœurs d'avoir fait ça, il n'y aurait pas eu de jugement du Seigneur, les gens ne seraient pas malades, ne seraient pas infirmes, puis ils ne seraient pas morts. Quand on juge nous-mêmes, Dieu nous pardonne, parce qu'on le confesse, on l'avoue, puis on demande de l'aide. Mais quand nous sommes jugés et châtiés par le Seigneur, c'est afin qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Puis là, Dieu nous reprend, il nous frappe, puis ça nous amène à la repentance. Puis là, on va être capable de demander pardon si nous ne nous endurcissons pas. Jacques, il nous enseigne, le disciple Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, nous enseigne une suite de cet enseignement-là qui est encore dans la même lignée de pensée en nous expliquant comment recevoir la guérison sur une maladie qui vient en conséquence de nos péchés non confessés. Dans Jacques 5, 14. Ça nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Puis la prière de la foi sauvera le malade, puis le Seigneur le relèvera, puis s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et prions, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous voyons ici deux aspects. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui est malade. Jacques nous dit, quelqu'un est malade parmi vous, qui appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Dans ce passage-là, c'est clair que tous les chrétiens qui sont malades sont appelés à marcher par la foi, à faire confiance à Dieu, puis aller voir les anciens de son Église, les gens qui ont été consacrés dans le ministère, puis ils sont comme des représentants de bergers sur le troupeau, sur la terre. Ils sont utilisés par Dieu pour votre secours, pour votre enseignement, pour vous guider dans le Seigneur. Ils sont pas meilleurs que les autres, mais ils sont placés là par Dieu pour nourrir le troupeau. C'est des dons que Dieu a donnés aux hommes. Puis là, Dieu dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Qu'elle voie les anciens, puis ils vont prier en loignant d'huile. Loindre d'huile, c'est comme prendre un peu d'huile, puis le vider sur sa tête. C'est comme un signe pour démontrer que le Saint-Esprit va te toucher. Puis ça nous dit dans ce passage-là que la prière de la foi sauvera le malade, puis le Seigneur le relèvera. Ça veut dire que Dieu a l'intention de répondre aux prières de foi. Si nous avons la foi, puis nous croyons que quand on est malade, on peut aller voir un ancien, puis l'ancien va prier pour nous avec l'onction d'huile, bien nous allons être guéris. Puis si nous y allons par la foi, on va faire confiance à Dieu, puis la prière de la foi sauvera le malade. Dieu va répondre, ça dit que le Seigneur va le relever. Puis la suite est intéressante aussi. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il est en train de nous dire que ça peut arriver que tu es malade, puis c'est pas à cause du péché, puis le Seigneur va te relever. Mais même si tu en auras commis des péchés, tu vas être pardonné. Suite à cette prière-là, il nous dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On voit dans ce passage-là, c'est intéressant, ça nous dit que si tu en as fait des péchés, tu vas être pardonné, mais confesse-les à ton pasteur, à l'ancien que tu es en train de parler. Dis-lui que tu penses que ça sera un tel péché dans ta vie qui t'aura fait que tu auras eu cette maladie-là. Il dit, la prière de la foi va sauver le malade, ça va guérir le malade, le Seigneur va relever le malade, puis en plus, son péché va lui être pardonné. Ça veut nous dire que le péché t'a pas encore pardonné. Tu es chrétien, tu vis ta vie chrétienne, ça fait, mettons, 10 ans, 15 ans que tu es chrétien, tu t'as commis d'autres péchés, tu te jugeais pas toi-même dans tes péchés, le Seigneur est obligé de te frapper. Pour te faire réaliser que tu es dans le péché. Puis quand tu réalises que tu fais un lien entre ta maladie et le péché, puis là, tu vas voir l'ancien, tu lui demandes de l'aide. Ça veut pas dire tout le temps qu'à chaque fois qu'on est malade, que c'est à cause du péché. Non, non. Mais quand on est malade, peu importe la cause pourquoi qu'on est malade, on devrait aller voir les anciens qui vont prier sur nous avec l'onction d'huile, puis la prière de la foi va sauver le malade. S'il a commis des péchés, ils seront pardonnés. Puis là, c'est là qu'il nous dit encore de les confesser, nos péchés. Si la personne va voir l'ancien, puis elle veut pas confesser son péché, ça nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous voulez être guéris, vous devez les confesser. Vous voulez être pardonnés, vous devez les confesser. Je dis pas de confesser à n'importe qui. Faut que ça soit un ancien, quelqu'un de responsable, quelqu'un que vous savez que vous allez confier des choses puis il va les garder. Il les répétera pas à sa femme ou les répéter au diacre ou les répéter à tout le monde dans l'église. C'est ce qu'il faut réaliser que dans l'église, Il y a des gens fiables, des gens qu'on est capable de faire confiance, des gens qu'on va pouvoir leur confier des choses, puis ils vont prier avec nous plutôt que nous juger, puis nous critiquer, puis de rapporter toutes ces choses-là aux autres. Ils vont prier avec nous, puis la Bible, elle nous dit qu'on va être pardonné, puis on va être guéri. Gloire à Dieu, c'est quelque chose. La question du départ, c'est est-ce que les chrétiens doivent confesser leurs péchés? Est-ce que les chrétiens doivent, une fois qu'ils ont accepté Jésus, puis dans la suite de leur vie, un an après, 5 ans après, 10 ans, chaque jour, est-ce que les chrétiens doivent confesser leurs péchés? Ou la réponse est oui. Nous devons nous analyser, faire le point sur notre vie et regarder, on veut se sanctifier, on veut se purifier, il faut regarder où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie chrétienne, puis il faut demander pardon à Dieu pour les choses qui offensent Dieu, parce que c'est clair qu'on va en faire tous les jours. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il est menteur. On a tous des péchés, puis on en fait tous les jours, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements. Et Dieu s'attend à ce qu'on lui confesse, qu'on avoue notre état, qu'on se pense pas supérieur aux autres, qu'on soit comme le pharisien qui était dans le temple, puis il dit, oh Dieu, je suis pas comme l'autre, puis moi, je suis pas comme ci, puis moi, je paye ma dîme, puis moi, je suis correct. Puis l'autre qui dit, oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis qu'un pécheur. Mais lui, il sort justifié plutôt que l'autre. Nous voulons être justifiés devant Dieu, nous voulons se sanctifier, nous voulons nous purifier de tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous voulons être pardonnés, nous voulons être guéris, nous devons confesser notre état, puis le confesser tous les jours. Pour un avancement dans la sanctification, faut demander de l'aide à Dieu, faut confesser notre état, puis il interviendra. Dans Proverbe 28:13, ça nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce verset-là est puissant parce que ça nous dit, si je me cache dans mes péchés, si j'avoue pas mes péchés, je ne prospérerai point. Puis si je veux grandir dans la sanctification, je veux prospérer dans la sainteté, je veux m'approcher de Dieu, je dois avouer mes transgressions, je dois les confesser à Dieu. Puis, il dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le pardon de Dieu continue à agir sur nous. Nous serons purifiés de nos iniquités parce qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier, nous rendre purs de toutes nos iniquités. Dieu veut nous purifier. Dieu veut nous pardonner. Mais pour cela, nous devons les confesser et les abandonner. C'est ça qu'est le travail de la sanctification pour tous les chrétiens. Devons-nous confesser nos fautes? Oui, nous devons confesser nos fautes. Puis nous devons le dire à Dieu qu'on a besoin de son aide, puis qu'il vienne par son Saint-Esprit nous transformer. Je vais faire une prière avec vous. Si c'est la première fois que vous approchez de Dieu pour demander pardon, je vais faire une prière afin que vous puissiez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, que vous puissiez être sauvés et avoir la vie éternelle, puis que cette nouvelle vie de communion avec l'Esprit de Dieu, que vous puissiez la vivre à partir de maintenant. Faites cette prière avec moi. Père, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus, je reconnais que je suis un homme pécheur, je reconnais que je ne peux me sauver par moi-même. Je reconnais que Jésus est venu v'là 2000 ans, puis qu'il est mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés, et qu'il a versé son sang pour que je sois purifié. Je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne, je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu, puis Dieu t'a accepté. Il t'accepte comme étant son enfant, il te pardonne tous tes péchés, puis te donne le Saint-Esprit, puis une nouvelle vie commence pour toi. Je t'encourage à aller dans une église évangélique pour aller entendre le message de l'Évangile, pour entendre les paroles que tu as besoin pour que tu puisses connaître le chemin que Dieu a tracé, connaître sa volonté, puis je t'encourage à marcher comme je l'ai enseigné, en marchant dans la lumière, en étant mutuellement en communion avec lui, puis en confessant tes péchés, puis en restant accroché à la grâce de Dieu. Puis c'est de même que tu vas te rendre jusqu'à la fin. Je vous encourage à aller aussi sur mon site publicationtraditionevangélique.com. C'est là que vous allez trouver plein d'enseignements qui vont vous aider à grandir spirituellement, qui vont vous faire avancer dans votre marche chrétienne. C'est tout le temps que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.